love is all around. Oh, fuck, wank, bugger, shitting, ass, head and hole.
Start again.
I feel it in my fingers.
In my fingers.
I feel it in my toes.
I feel it in my toes, yeah.
Christmas is all around me.
All around me.
And so the feeling grows.
So the feeling grows. Oh.
It's written in the wind.
In the wind.
So Christmas.
Christmas,
come on, let it snow.
Come on and let it
this
snow.
Is shit, isn't it?
Yep, solid gold shit, Maestro.
On entend sonner dans l'antichambre. Un peu après, on entend ouvrir. Nora entre dans le salon, gaie, fredonnant. Elle est en manteau et porte de nombreux paquets, dont elle se défait sur la table à droite. Elle laisse la porte de l'antichambre ouverte derrière elle, et l'on y voit un commissionnaire qui porte un sapin de Noël et un panier. Il les remet à la bonne qui a ouvert.
Cache bien l'arbre de Noël, Hélène. Il ne faut surtout pas que les enfants le voient avant ce soir, quand il sera orné.
Au commissionnaire, en tirant son porte-monnaie.
Combien?
50 heures.
Voilà une couronne. Non, gardez-le tout.
Le commissionnaire remercie et sort. Nora ferme la porte. Elle continue à rire, avec une gaieté calme, pendant qu'elle ôte son manteau. Elle prend dans sa poche un sac de macarons et en mange deux. Puis, avec précaution, elle va écouter à la porte de son mari.
Oui, il est à la maison.
Elle fredonne encore en se dirigeant vers la table, à droite.
Est-ce la louette qui grisole par là?
Nora, occupée à ouvrir quelques-uns de ses paquets.
Oui, c'est elle.
Est-ce l'écureuil qui s'agite là?
Oui.
Quand l'écureuil est-il rentré?
À l'instant.
Elle met le sac de macarons dans sa poche et s'essuie la bouche.
Viens ici, Torval, tu verras ce que j'ai acheté.
Ne me dérange pas.
Un peu après, il ouvre la porte et regarde, la plume à la main.
Acheté, dis-tu? Tout ça? Le petit oiseau chanteur s'est-il encore lancé dans de folles dépenses?
Oui, mais Thorvald, nous pouvons bien cette année en prendre un peu à notre aise. C'est le premier Noël où nous n'avons pas besoin d'y regarder.
Mais dis-moi, petite gaspilleuse, à quoi as-tu pensé pour ton propre compte?
Ah, pour moi? Je me soucie de rien.
Mais si, bien sûr. Dis-moi quelque chose de raisonnable dont tu aurais envie.
Non, je ne sais vraiment pas. Si, écoute, Thorvald...
Eh bien?
Nora tripote ses boutons sans le regarder.
Si tu veux me donner quelque chose, tu pourrais...
Eh bien, dis!
Tu pourrais me donner de l'argent, Thorvald. Juste dont tu trouves que tu peux te passer. Et ensuite, un de ces jours, j'achèterai quelque chose avec.
Non, mais Nora...
Oh si, fais-le, cher Thorvald, je t'en prie. J'accrocherai l'argent après l'arbre de Noël, joliment enveloppé. Ça ne serait pas amusant?
Ho, ho, ho. Bienvenue, mes petits auditeurs, en ce matin de Noël pour un épisode spécial. Quelle joie de revoir ces jolis visages roses tournés vers moi. Enfin, je veux dire, d'imaginer ces grands yeux innocents et ces jolies oreilles roses tournées vers cette émission. C'est moi, le Père Noël. Et pour savoir quel cadeau radiophonique je vais vous offrir aujourd'hui, une question se pose. Avez-vous été gentil ou méchant?
Non, en fait, on s'en fiche. Vous avez bien entendu la virgule de début de Love Actually, où le personnage joué par Bill Nighy réenregistre son tube Love is All Around à la sauce noélique, dans le seul but de tenter un comeback. Et puis la première scène de La Maison de Poupée d'Henrik Ibsen, traduite par Pierre-Georges Lachenet, lue à quatre voix avec Camille Didascalie, Willem dans le rôle de Thorvald Elmer, moi-même dans le rôle de Nora Elmer et Viviana dans le rôle du commissionnaire. Qui va droit au cœur de l'esprit de Noël? Le fric! Noël règne du capitalisme, de la nourriture excessive et des inégalités sociales qui cachent sa noirceur sous des bonnets rouges bordés de fourrure blanche. Vous me remercierez plus tard, le cynisme c'est bon pour la digestion. Mais soyez sans crainte, bien que je sois Caroline et non le Père Noël, ma sœur s'appelle Noël, ça compte pas pour du beurre, et entourée de mes petits assistants elfiques, Camille, Willem et Viviana, je suis prête à faire décoller le traîneau de Les yeux ont des oreilles, cinquième épisode, pour commencer la distribution des lectures du jour. Avec un sujet qui, sous ses airs mièvres et bien polémiques, nous jonglerons allègrement avec texte et musique, comme avec des boules de Noël. C'est-à-dire en prenant soin de ne pas perdre l'équilibre, les boules de Noël, ça se casse. Comme un sapin, cette émission brillera de mille feux colorés de notre plurilinguisme, mais ce sera bien un arbre de Noël, veuillez nous excuser pour les limitations occidentales et judéo-chrétiennes. Ce n'est pas la fermeture d'esprit, mais on parle mieux des traditions qu'on connaît. Pour nous tenir compagnie, voici le fidèle Figaro, crâne en papier mâché de son état, qui nous sert de mascotte et de mannequin pour les photos et qui est bien entendu rempli de papillotes en chocolat. Et il a récemment acquis un petit frère, une tasse en forme de crâne, cadeau de ma sœur Noël, sur le modèle de Jack dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, de Henry Selick, pas de Tim Burton. William voulait que je le précise.
Wait, I've got a better plan to catch this big red lobster man. Let's pop him in a boiling pot and when he's done, we'll butter him up.
Big red for Santa Claus, throw him in a box. Bury him for 90 years, then see if he talks.
Et des projets meurtriers issus de la chanson Kidnapper le perce-oreille du dit film pour mettre le ton. Même pour Noël, mon sadisme et mon indiscrétion ne connaissent pas de bornes. Dans Jack, j'ai placé de petits papiers, un pour chacun, avec des questions ou des gages en rapport avec Noël. Qui veut passer le premier à la casserole? On sacrifie Gianna.
J'ai peur.
Il faut avoir peur.
Ok, la question c'est... Quel est le pire cadeau qu'on t'ait fait? Oui, un pull rose avec des franges que ma grand-mère m'a donné il y a 3-4 ans.
Ouais.
Et il a commencé à faire des questions parce qu'elle ne m'a jamais vue avec, avec ça. Et oui, c'est vraiment, vraiment dégueulasse. Ce n'est pas mon style, mais merci.
Camille, puisque tu as jeté Viviana en pâture.
Oui, bon, j'avais un peu pas envie de passer. Bien sûr, c'est le gage pour moi. Chante en couplet d'une chanson de Noël.
Yes.
Donc je présente toutes mes excuses aux auditeurs. Hein. Alors je connais une que j'ai appris, que ma maman m'a apprise quand j'étais petite et qu'elle me chante des fois à Noël. C'est le seul moment où on chante.
Noël c'est comme un rythme de jazz, ça commence tout doucement. On n'entend que la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi.
Noël,
chantez tout bas, Noël.
Bidou, 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 bidou. Ah.
Merci tous.
Bien. Will ?
Alors, question. Comment as-tu arrêté de croire au Père Noël ? Parce qu'il n'existe pas ? C'est une très bonne question. Bah, je crois qu'en fait, j'ai eu un gros spoiler de la part de mes camarades de CE1, quelque chose comme ça. Ou peut-être avant, je ne sais plus.
Tu ne sais plus ?
Ouais. Enfin, ça fait partie des nombreux spoilers qu'on a à Noël, comme les spoilers qu'on a sur le Hobbit, ou etc.
Un traumatisme qui ne t'a pas marqué particulièrement, quoi, en gros.
Non, mis à part que ça a laissé en moi une grande haine des spoilers.
Robin.
Ah, mais je suis rassuré quand même, parce qu'il en reste deux, donc ça veut dire qu'il y en a une pour Caroline.
Bah oui. Non, mais attends. Hein.
Alors, j'ai le gage d'inventer le parfum de bûche de Noël le plus dégoûtant. Ah bah, la dernière fois, on a fait l'émission sur la nourriture, j'ai dit que j'aimais les frites. Donc, on va faire une bûche de Noël 100% ch'ti. donc, ce serait un croustillant de frites dans le fond, comme biscuit.
Uh-huh.
une glace à la bière.
Oh.
Ah bah, et puis des saupoudrées de spéculoos, quoi, pour le côté sucré. Est-ce que c'est assez dégoûtant pour vous? Joyeux Noël à tous. Donc, je te tends le dernier gage, Caroline.
Question. Avez-vous une tradition bizarre dans ta famille pour Noël ? Le matin, on a comme tradition que tous les enfants sont debout vers 8h et trépignent d'impatience de voir leur cadeau, donc même à mon âge avancé. Et les parents se réveillent plus tard et sont un peu en mode « Non, mais attends, on prend le petit-déj d'abord. » Et voilà, c'est pas vraiment bizarre, mais c'est une tradition quand même. Pour une fois, la première lecture du jour sera exactement aussi liturgique qu'elle en a l'air. Noël, en tout cas pour les chrétiens, c'est avant tout la naissance d'un petit bout de chou conçu par l'action du Saint-Esprit qui devait sauver le monde. Ah non, pas Anakin Skywalker. Son petit nom, c'est Jésus, mais on l'appelle Emmanuel, j'ai jamais compris pourquoi. L'histoire se passe à Bethléem. C'est Willem qui voulait une traduction de la Bible, mais de façon un peu particulière, c'était son idée et je décline toute responsabilité dans l'affaire. À toi l'honneur, Will.
Telle fut la genèse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint tabernacle. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car ce qui était engendré en elle va s'avant de l'Esprit Saint tabernacle, ça n'a pas de bon sens. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils,
et l'on appellera du nom d'Emmanuel, là, c'est pas de bon sens, ça me fait capoter. Ce qui se traduit par « Dieu avec nous ». Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son faume, là, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus.
Merci Will. Et comme le disent The Ramones, Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Chers Québécois et chrétiens offensés, vous pouvez envoyer directement vos menaces de mort au bon soin du Père Fouettard, Pôle Nord, 666 avenue de l'Envers du Décor. Et à présent, on continue à fouiller dans ce qui est peut-être vos souvenirs d'enfance, et en tout cas, une retombée dans les réminiscences pour le narrateur de W ou le souvenir d'enfance. Ses parents déportés, il se retrouve seul dans un pensionnat où il réussit pourtant à retrouver une bribe de magie de Noël. Le texte de Georges Perec, la lecture est de Camille.
Oh, oh, oh.
Le soir, peut-être après la messe de minuit, en tout cas dans mon esprit très tard, on fit une blague au professeur de gymnastique qui, comme chacun de nous, avait mis ses souliers autour de l'arbre. Une grosse paire de chaussures de ski qui ne pouvait être que le réceptacle d'un cadeau mirifique. En mettant dans une de ses chaussures un paquet gigantesque, qui n'était fait que d'emballages superposés, renfermant, comme ultime et seul présent, une carotte. J'allais me coucher. J'étais seule dans mon dortoir. Vers le milieu de la nuit, je me réveillais. Je ne crois pas que la question qui me tenaillait concernait directement le Père Noël, mais j'étais impatient de savoir si j'avais effectivement reçu un cadeau. Je sortis de mon lit, j'ouvris silencieusement la porte et, pieds nus, je suivis le corridor conduisant à la galerie qui surplombait sur son pourtour, le hall. Je m'appuyai contre la balustrade. Elle était presque aussi haute que moi. En 1970, lorsque je suis allée revoir le collège, j'ai voulu refaire le même geste et j'ai été stupéfait de voir que la balustrade m'arrivait seulement à mi-corps. Je crois que la scène tout entière s'est fixée, s'est figée dans mon esprit. Image pétrifiée, immuable, dont je garde le souvenir physique, jusqu'à la sensation de mes mains agrippant les barreaux, jusqu'à l'impression du métal froid contre mon front quand il se posa sur la barre d'appui de la balustrade. J'ai regardé en bas. Il n'y avait pas beaucoup de lumière, mais au bout d'un instant, je suis arrivée à voir le grand arbre décoré, l'amoncellement des chaussures tout autour, et, débordant d'une des miennes, une grande boîte rectangulaire. C'était un cadeau que m'envoyait ma tante Esther. Deux chemises à carreaux, genre cow-boy. Elles piquaient. Je ne les aimais pas.
Gedanken an gestern, an meine Eltern, die Brüder und Schwestern. Ich fühl die Geborgenheit, die Wärme noch heut.
Merci Camille. Et un chant de Noël du Tyrol italien, parce qu'on aime bien se moquer. Il y a des mots qu'on lit sans les voir, d'autres qu'on ne penserait jamais à lire. Aux antipodes de la littérature, voici les lectures insolites. Alors en vrai, j'ai pas de lecture insolite spéciale Noël parce que, bah, comme vous tous, j'ai un peu été assez chargée. Mais j'ai récolté plein de trucs bizarres que je vois parfois écrits sur les murs, sur les objets dans Lyon. Et par la magie du blablatage, je vais les relier au thème de Noël. Attention. Aperçu sur une chaise, à Lyon 2, lors d'une soirée poétique. Qui s'assied, se tait. Qui se lève, s'élève. Alors bouche ton cul, fainéant. Donc ça, c'est pour tous ceux qui sont en train de s'avachir dans tout ce qu'ils ont mangé pendant les fêtes. Bougez votre cul, bande de fainéants. Aperçu lors de la fête des Lumières, sur un mur, mon chien est unijambiste. Donc, et écrit ETS, ce qui fait que j'avais l'espèce de pulsion de corriger, de mettre un S. Mais en fait, je pense en y réfléchissant que c'est pas une faute de grammaire. C'est au contraire une espèce de comparaison faite entre mon chien et unijambiste. Le fait qu'à chacun, il manque une partie de leur liberté, l'un à cause de sa laisse et l'autre à cause de l'absence d'une jambe. Et je pense que Noël est un moment de l'année particulièrement approprié pour réfléchir à la liberté et à l'essence de soi.
C'est beau les fautes d'orthographe.
Alors, ça c'est pour tous ceux qui sont en train de boire de l'alcool. Sur un menu dans le bar qui s'appelle Johnny's Kitchen, dans le Vieux Lyon. When money's tight and hard to get, and your horse is also round, when all you've got is a pile of debt, a pint of plain's your only man. La bière, c'est bien. Et je crois que c'est tout. Ah non, j'en avais un dans les toilettes. Les toilettes sont un lieu fascinant quand il s'agit de récupérer des graffitis. Ah oui, j'aime bien celui-là. Donc c'est les toilettes des filles du rez-de-chaussée. De toute façon, vous êtes tous moches et vieux, pensez à votre avenir. Je ne sais pas trop comment lier ça à l'esprit de Noël, mais je suis sûre que c'est un fait qui s'applique à la vie de tous les jours. Et pour finir, vous allez tous m'aider à écrire une lettre au Père Noël de la part de Figaro, parce qu'il n'a pas de main, donc c'est un peu difficile. On va faire ça en mode cadavre exquis. Moi, je vais écrire un déterminant et un nom. Will, un adjectif. Camille, une matière. Et Viviana, une couleur. On prend 30 secondes pour écrire et après, on agence les trucs.
C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Ok. Alors, Figaro voudrait de la part du Père Noël cette année une girafe.
Squelettique.
En or massif.
Rouge.
D'accord. Ça doit pas être trop dur à trouver.
Pour continuer à faire glisser notre luge littéraire le long de la pente enneigée de la tradition, oui, je sais, les métaphores sont bizarres, faites-moi une fleur, c'est les vacances. Pour continuer donc dans la tradition, nous aurions pu vous lire un extrait de A Christmas Carol de Charles Dickens. Mais on n'avait pas envie. Et la nouveauté, c'est bon pour la santé comme une boule de neige en pleine figure. Non, en fait, la prochaine lecture se passe aussi au XIXe siècle et raconte aussi l'histoire d'une âme perdue qui découvre l'esprit de Noël. Pas un vieil avare, mais une prostituée, Sugar, qui prend pitié du jeune garçon qui travaille dans son bordel. Extrait de la nouvelle Christmas in Silver Street par Michael Faber, lu par Viviana.
Last night was Christmas Eve. Now it's the morning after, December 25th, a day like another. Sugar was a lamp lit because her bedroom window is small and the sun is lost behind the grey swirl snow. A knock at her door makes her jump. At this time of the morning, she knows it can't be a customer. It must be the little Christopher come to collect the bed linen. I'm here for the sheets, says the boy when she opens the door. He's blonde, blue-eyed, and as innocent-looking as the shepherd's light from nativity scene. How old is little Christopher? Sugar can't tell. So far, young to be a drudge in a bordel. But Amy put him to work this way, and he seems grateful to have a purpose. Perhaps if he washes and dries million bed sheets, he will finally make amends for his original sin of being born. Thank you, Christopher, says Sugar. He doesn't reply. Merely begins folding the dirty sheets into a stack he can carry away. Outside, in the street, a pretty voice begins to sing. It's Christmas then, says the boy, lifting the pile of line to his chest. Yes, Christopher, he notes, as he's confirming something he knows inside out, something he mentioned only for conversation's sake. Chin resting on a wad of soiled line, he walks to the door and is about to leave. Then he turns and asks, what's Christmas? Sugar blinks, momentarily stumped. It's the day Jesus Christ was born, she replies. I know that, says the boy. He was born in a manger, adds Sugar, to make the story more interesting for him. A big wooden tub for animals to eat from. Christopher notes, making do and poverty is the way of the world he knows. Some folk, observe the boy, gives presents at Christmas, to each other like. So they do, Christopher. The child shakes his head like an old man bemused by the pointlessness of giving someone sixpence in exchange for sixpence.
Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année, grande mère. Joyeux, joyeux Noël aux mille bougies.
Merci Viviana. Et un peu de Mika pour rafraîchir l'atmosphère, c'était Vive le vent. Et après vous avoir fait fondre le cœur comme du beurre sous de la brioche chaude, on va vous déprimer. Si vous avez l'alcool à disposition, buvez un petit coup. Camille, qui ne recule ni devant les cannibales ni devant les larmes, va vous lire un poème vénézuélien, Elegía a una velada añeja, de Inés de Cuevas.
Por el umbral de un año que agoniza, caminan, fugitivas, las divinas fragancias de una noche de fiesta. Hay cánticos solemnes libando mi tristeza. Y el cucu milenario acuna entre sus manecillas negras. El moribundo adiós del año que nos deja. Qué monótono pasa, se detiene, y amontona mis horas en el frío silencio del tiempo que se queda. Un mutismo de años levanta su copa con cada campanada que da la noche nueva. Y al invocar tu nombre, el champán del recuerdo me emborracha de pena. Los recuerdos, ah, los recuerdos. Informales viajeros que abordan los vagones cargados de nostalgia. Yo me quedo mirándolos, cómo se deslizan por el carril helado de mi velada añeja. Arrojan las varijas en el brocal oscuro donde ahogan sus quejas. Ahí, bajo el parar desnudo, junto a los que se amaron en tantas noches viejas, a la lumbre de sueños, poemas y promesas, donde, al morir un año, vaciaban su moral de enhorabuenas. Hoy, me han dejado sola. ¿Cómo se quedan todos los que en noches como esta no quieren que haya fiestas? Porque tienen el alma rota, ya que no hay quien comparta el amor en tu mesa. Y al acompañar la dulce, cuando abra la puerta, traer en el año nuevo su puñado de ausencia. ya no habrá noches viejas, ni amor, ni ruegos. Cabalgará el dolor por las mismas callejas. Y en el triste silencio de mi gran noche vieja, titirará la luz de tu recuerdo.
It's Christmas time again. It's time to be nice to the people you can't stand. All year, I'm growing tired of all this Christmas cheer. You people scare me. Please stay away from my home. If you don't want to get me down, just leave the presents and then leave me alone.
Merci Camille. Allons, allons, pourquoi ces visages sinistres ? Ah, pardon, indigestion, ça arrive. On vous a mis un peu de Blink-182, I Won't Be Home for Christmas, et leurs pulsions violentes, pour vous distraire le temps d'aller mieux. Et pour vous redonner foi en l'humanité, Viviana vous lit un court extrait de Il Giornana di Gian Baruska par Di Vamba.
Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Gian Baruska, que c'est le... personnage principal de le journal de Gian Baruska, écrit par Vamba, qui est un pseudonyme de Luigi Bertelli, écrit dans 1907. Et un enfant qui fait beaucoup de blagues à toute sa famille et les raconte dans son journal. Le style est l'aspect plus intéressant du livre parce que l'auteur utilise le langage d'un enfant avec les erreurs de grammaire, les mots inventés. Et c'est comme si nous étions réellement dans la tête du protagoniste. Il dit que les raisons pour lesquelles il aime Noël, c'est qu'il peut manger beaucoup de gâteaux toute la journée. Et il n'est pas intéressé par Jésus, même si sa mère dit que c'est l'aspect plus important. Et la magie de Noël peut seulement être racontée à travers les yeux d'un enfant pour préserver les charmes enchantés que nous avons perdus, plus ou moins. 25 décembre. Io preferisco a tutti gli altri mesi dell'anno quello di dicembre, perché c'è il Natale e Caterina fa sempre due bei budini, uno di riso e uno di semolino, perché alla mamma piace quello di semolino e quello di riso non lo può soffrire. E il babbo va matto per quello di riso, mentre quello di semolino la annoia come il fumo agli occhi. Io invece li preferisco tutti e due e siccome anche il dottore dice che fra i dolci i budini sono i più igienici, così ne mangio quanto mi pare e nessuno mi dice nulla.
Alors si c'est ça les valeurs, les cadeaux font le bonheur. Remplis le grand panier en ferraille et nourris ceux que tu affames. Joyeux Noël, joyeux Noël.
Merci Viviana, et un triste Noël vous a été souhaité par Marie Chérier en virgule. Est-il besoin de le préciser ? Proposé par Camille. Allez, on retourne du côté lumineux de l'arbre. Parce que le côté qui fait face au mur, on a tendance à y mettre moins de guirlandes, personne ne les voit. Du côté lumineux donc, et on va y rester. Pour la discussion, je passerai les rênes à Willem. Attention, il y a un des rênes qui boite. Mes excuses, je n'ai pas le talent d'un Terry Pratchett qui nous servira de support pour discutailler au pied du sapin. Bienvenue dans l'univers décalé du disque monde, soutenu par quatre éléphants, eux-mêmes en équilibre sur la carapace d'une tortue, qui sert de cadre à une série de romans fantasy foisonnantes d'intrigues loufoques. Si vous n'avez jamais lu du Pratchett, préparez-vous à de l'humour sous toutes ses coutures, ironie, comique de répétition, parodie, satire, private jokes et peau de banane, avec une forte tendance aux notes de bas de page délirantes. Dans le 20e roman du cycle, The Hogfather, le père porcher éponyme, équivalent de notre Père Noël dans un monde où le bacon a un statut quasi divin, a disparu suite à une tentative d'assassinat fomentée par les auditeurs, des obscures créatures qui veulent que le monde soit vide de toute joie et de toute croyance. Du coup, la mort prend un second boulot temporaire pour assurer la distribution des cadeaux, aidé de son assistant Albert, déguisé en elfe, et avec l'idéalisme qui caractérise le personnage, il refuse de rester dans les limites capitalistes de son rôle. Oui, il, mort, c'est masculin en anglais. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il rencontre la petite fille aux allumettes, agonisant dans la neige, auquel il est censé offrir la fin de la vie ? Forcément pas ce que Anderson avait prévu. Je vous lis la VO avant de laisser William aux commandes, avec la traduction du fabuleux Patrick Couton, qui a obtenu un Grand Prix de l'Imaginaire 1998 pour son travail de titan, l'ensemble des traductions du disque monde.
The sleigh slewed around at the end of Money Trap Lane.
Come on, Albert.
You know you're not supposed to do this sort of thing, Master. You know what happened last time.
The Hogfather can do it, though.
But little match girls dying in the snow is part of what the Hogwarts spirit is all about, Master, said Albert desperately. I mean, people hear about it and say, we may be poorer than a disabled banana and only have mud and old boots to eat, but at least we're better off than the poor little match girl, Master. It makes them feel happy and grateful for what they've got, see?
I know what the spirit of Hogwarts is, Albert.
Sorry, Master. But look, it's all right anyway, because she wakes up and it's all bright and shining and tinkling music and there's angels, Master. Death stop.
Ah. They turn up at the last minute with warm clothes and a hot drink.
Oh dear, thought Albert. The Master's really in one of his funny moods now.
No, not exactly at the last minute, Master. Not as such.
Well?
More sort of just after the last minute, Albert coughed nervously.
You mean after she's...
Yes, that's how the story goes, Master. It's not my fault.
Why not turn up before? An angel has quite a large carrying capacity.
Couldn't say, Master. I suppose people think it's more satisfying the other way. Albert hesitated and then frowned. You know, not that I come to tell someone.
Death looked down at the shape under the falling snow. Then he set the life timer on the air and touched it with a finger. A spark flashed across.
You ain't really allowed to do that, said Albert, feeling rich.
The Hogfather can. The Hogfather gives presents. There's no better present than a future.
Yeah, but...
Albert!
All right, Master. Dev scooped up the girl and strode to the end of the alley. The snowflakes fell like angel's feathers. Dev stepped out into the street and accosted two figures who went tramping through the drifts.
Take her somewhere warm and give her a good dinner, he commanded,
pushing the bundle into the arms of one of them.
And I may well be checking up later.
Then he turned and disappeared into the swirling snow. Shortly afterwards, there was some tinkling music and a very bright light, and two rather affronted angels appeared at the other end of the alley, but Albert threw snowballs at them until they went away.
Le traîneau dérapa au bout du chemin Belsfric. Viens, Albert. Vous savez que vous ne devez pas faire des trucs pareils, maître. Vous savez ce qui est arrivé la dernière fois. Mais le père Porcher peut le faire, lui. Seulement, les petites marchandes d'allumettes qui meurent dans la neige participent de l'esprit de la fête du Porcher, maître, objecta Albert d'un ton désespéré. Voyez, les gens qui apprennent la nouvelle se disent « On est peut-être plus malheureux qu'une banane estropiée, on a peut-être que de la vase et des godasses à se mettre sous la dent, mais au moins, on s'en sort mieux que la pauvre petite marchande d'allumettes, maître. » Du coup, ils se satisfont de ce qu'ils ont, ça les réconforte, voyez. Je sais tout de même ce qu'est l'esprit du Porcher, Albert. Pardon, maître, mais... Écoutez, c'est de toute façon pas grave, parce qu'elle va se réveiller, que ça brillera partout, il y aura la lumière, de la musique argentine et des anges, maître. La mort s'arrêta. Ah, ils arrivent à la dernière minute avec des vêtements chauds et une boisson bouillante. Oh là là, se dit Albert, le maître traverse vraiment une de ces drôles de passes en ce moment. Non, pas exactement à la dernière minute, maître, pas à proprement parler. Alors, plutôt comme qui dirait juste après la dernière minute. Albert tout sauta nerveusement. Tu veux dire après qu'elle... Oui, d'après ce qu'on raconte, maître, pas ma faute. Pourquoi ne pas arriver avant? Un ange dispose d'une assez grosse capacité de transport. Aucune idée, maître. À mon avis, les gens trouvent l'autre solution plus satisfaisante. Albert hésita, puis fronça les sourcils. Vous savez, maintenant que j'en parle, la mort baissa la tête vers la forme sous la neige qui tombait. Puis il plaça le compte-vie devant lui, en suspension dans le vide, et le toucha du doigt. Une étincelle fulgura au travers. Vous n'avez pas vraiment le droit de faire ça, dit Albert d'un air coupable. Le père Porcher a le droit, lui. Le père Porcher fait des cadeaux. Il n'en existe pas de plus beau qu'un avenir. « Ouais, mais Albert... »« D'accord, maître. » La mort ramassa la fillette et se dirigea à grands pas vers le bout de la ruelle. Les flocons tombaient comme des plumes d'ange. La mort déboucha dans la rue et accosta deux silhouettes qui cheminaient à travers les congères. « Emmenez-la au chaud et offrez-lui un bon dîner, » ordonna-t-il en déposant de force son ballot dans les bras d'une des silhouettes. « Il n'est pas impossible que je vienne vérifier plus tard. » Puis il fit demi-tour et disparut dans la neige tourbillonnante. Peu après, une musique argentine retentit, une lumière éclatante jaillit, et deux anges indignés apparurent à l'autre bout de la ruelle, mais Albert leur jeta des boules de neige jusqu'à ce qu'ils décampent. Donc ce que j'ai trouvé intéressant dans ces extraits, c'est que c'est... Bon déjà, c'est drôle, et qu'en plus, ça montre bien aussi que même si Noël, c'est une fête d'altruisme, etc., il y a toujours un petit côté, bon bah, au moins nous, on est plus heureux que les autres. Donc je vois, Camille, que tu frétilles sur ta chaise, donc tu as quelque chose à dire par rapport à ça?
Non, parce que je me fais pourrir depuis le début de cette émission, parce que je ne choisis que des choses tristes pour Noël. Donc je dois me défendre. Je pense qu'en monde de réjouissance imposée comme Noël, la période des fêtes, forcément ça peut... être un moment où ça peut exciter, comment dire, une certaine tristesse, une certaine mélancolie par rapport à cette obligation qu'il y a à être heureux et à célébrer Noël. Et je trouve la pluie aux allumettes et aussi ce que tu viens de lire dans cet extrait du père Porcher, ça montre bien qu'il ne faut pas que ça masque aussi certaines réalités, à savoir ici la pauvreté tout simplement.
D'ailleurs, il commence son roman en disant que toutes les histoires commencent par une histoire de sang et qu'après c'est masqué en père Porcher.
Oui, parce qu'il remonte à l'origine païenne de Noël comme le solstice. Un peu après le solstice, enfin, où l'idée qu'il y a. Il y a un sacrifice, une histoire avec des haricots, enfin je sais plus trop, mais l'idée c'est qu'on sacrifie quelqu'un pour que bah, le soleil revienne après l'hiver. Et bon, après on a rajouté la naissance de Jésus qui apparemment serait né en juillet.
Justement, dans beaucoup de textes de Noël, il y a ce lien qui est fait entre la réjouissance et un aspect un peu plus glauque, par exemple un texte avec une prostituée.
Il y a une tradition, comme Carolina aussi dit, pour Dickens, ouais. Qu'il y a par exemple le toutes les maisons qui sont avec tous les cadeaux, avec tous les repas de Noël, donc où habitent les personnes plus riches, mais il y a aussi des personnes qui sont plus pauvres et ne peuvent pas organiser des fêtes si bien comme les autres. Et par exemple, aussi, Dickens, c'est très particulier parce que une chose qui est pour tout le monde, c'est quelque chose de joyeux et de bon. Et il peut être aussi la chose plus triste au monde parce que si tu n'as pas la possibilité d'être heureuse, quel jour, ces jours-là.
Ce que je me disais aussi en t'écoutant lire Michael Faber, c'est que la prostituée, elle retourne un peu à ses souvenirs d'enfance pour essayer d'expliquer à l'enfant ce que signifie Noël. Mmh. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette plongée à chaque fois dans les souvenirs. Dans le poème de Inès de Cuevas, enfin j'ai pas tout compris à nouveau, mais
là c'est un peu différent parce que déjà c'est les fêtes en général, c'est aussi le jour de l'an,
d'accord.
Mais elle c'est plus, oui, il y a aussi la mention des souvenirs, recuerdos, ça veut dire souvenirs. Et elle c'est des souvenirs tristes qui viennent parasiter ce moment joyeux, donc c'est un peu différent. Là c'est la solitude, un moment où tout le monde se réunit, donc ça décuple la tristesse. Je pense qu'on peut aussi créer juste une ambiance dramatique dans un roman. Enfin c'est le moment le plus utile parce que c'est le climax du bonheur, donc c'est là où par contraste tu accentues l'effet dramatique.
Donc justement. Pour revenir à l'idée du souvenir, c'est aussi parce que Noël, c'est lié à l'enfance, comme on l'a vu dans tous nos textes, et aussi à l'importance de la croyance, de croire au Père Noël, par divers moyens, quels qu'ils soient.
Bah, quand j'ai choisi l'extrait d'Ibsen pour l'Inkipit, je pensais aussi, non seulement parce que ça se passe à Noël et tout ça, et du coup, il y a toute la question de l'argent, mais parce qu'elle est traitée par lui comme un enfant, et ça ressort de façon particulière à Noël. Elle mange des sucreries, elle n'est pas censée en manger, elle est marron qu'elle mange, tout ça. Normalement, elle se fait gronder par son mari, il l'appelle mon petit écureuil, une petite adouette. La plongée à l'enfant, ça peut être agréable, mais ça peut aussi être. Dans le cas de ce texte-ci, c'est très.
Dégradant.
Dégradant, ouais. J'ai l'impression qu'on parle que de choses déprimantes, c'est pas le thème du jour.
Non, j'allais dire, Noël, c'était mieux avant. Tous nos textes montrent que Noël, quand on est enfant, enfin le petit extrait que tu montres avec cet enfant qui se réjouit de Noël parce qu'il peut manger des gâteaux et qui s'en fiche de la signification. Là, le souvenir que j'ai lu de Pérec, où il y a tout le contraste, où il dit je suis revenu 30 ans plus tard, et la balustrade, elle m'arrivait à mi-corps et c'était plus pareil, mais le souvenir est resté. Et l'idée que, ouais, croire au Père Noël, tu demandais si c'était important, bah, je pense que c'est ça qui donne la. Une fois que tu n'as plus cette fiction qui enrobe les festivités, on va dire, ça a moins de sens.
Mais c'est pour ça qu'existe la fête, pour nous faire retomber en enfance. Et nous espérons, lecteurs, t'avoir fait retomber en enfance grâce à nos lectures.
Et c'était Lady Gaga, détruisant votre enfance avec Christmas Tree. Et voilà, tous les cadeaux sont ouverts, ou presque, et il est temps de retourner à la vie réelle. Nous espérons vous avoir transmis l'esprit de Noël, ou du moins ne pas vous avoir trop déprimé avec le côté capitaliste, et c'était mieux avant. En cas d'échec, pas de problème, vous avez probablement du chocolat dans un rayon de moins de 10 mètres pour vous consoler. Et pour des fins plus littéraires, vous pouvez toujours retirer vos écouteurs et fourrer le nez dans un livre, connu, inconnu, ancien, récent, intelligent, très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright Camille. Cette émission a été préparée tous ensemble et enregistrée par Robin, toujours fidèle à la technique. Le t-shirt du jour n'est pas en rapport avec Noël, mais suffisamment bizarre. Alors, je veux dire, c'est un cadeau pour les philosophes. Si jamais ils comprennent le sens, dites-moi, parce que je veux savoir. C'est donc la figure de Spinoza. Et en dessous, il y a marqué « LOL, laughing out loud ». Je ne comprends pas. Lio tire sa révérence pour l'instant. On se retrouve en 2014, tout frais, tout pimpant, et normalement pour parler cinéma. D'ici là, allez voir les autres épisodes spéciaux Noël sur Transistor et gardez la foi en la magie. Faites donc comme le grand J.R.R. Tolkien, qui écrivait chaque année, même pendant la guerre, une lettre à ses enfants de la part du Père Noël, et qui sera notre envoi du jour, comme une belle étoile d'or couronnant ce sapin littéraire. Et dernier cadeau musical, Bob Dylan, Here Comes Santa Claus. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stocking, see your bears, cause Santa Claus comes tonight. Cliff House, North Pole. Christmas Eve, 1942. My dear Priscilla, Paul Bear tells me that he cannot find my letter from you among this year's piles. I hope he has not lost any. He is so untidy. Still, I expect you have been very busy this autumn at your new school. I have had to guess what you would like. I think I know fairly well, and luckily we are still pretty well off for books and things of that sort. But really, you know, I have never seen my stocks so low or my cellars so full of empty places, as Paul Bear says. I am hoping that I shall be able to replenish them before long. For there is so much waste and smashing going out that it makes me rather sad and anxious too. Deliveries too are more difficult than ever this year, with damaged houses and houseless people and all the dreadful events going on in your countries. Of course, it is just as peaceful and merry in my land as ever it was. We had our snow early this year and then nice crisp frosty nights to keep it white and firm, and bright starry days. No sun, just snow, of course.
I am giving as big a party tomorrow night as ever I did. Polo Cups, Paxu, and Volkatoka, of course, among them, and Snowboys and Elves. We are having the tree indoors this year, in the hall at the foot of the great staircase, and I hope Polar Bear does not fall down the stairs and crash into it after it is all decorated and lit up. I hope you will not mind my bringing this little letter along with your things tonight. I am short of messengers, as some have great trouble in finding people, and have been away for days. Well, my dear, here is so very much love from Father Christmas once more, and very good wishes for 1943.